RFI, grand reportage.
Le magazine de la rédaction vous emmène à Cuba, où s'ouvrira ce vendredi le 8e congrès du Parti communiste. Une grand-messe qui a lieu tous les 5 ans à La Havane et se tient cette année dans un contexte de crise économique aggravé par la pandémie de Covid-19 et les sanctions américaines. Sur le plan économique, justement, les réformes des précédents congrès du Parti communiste prévoyaient une actualisation du modèle économique, mais n'ont toujours pas été adoptées ou peine à se mettre en place. Cuba, face à l'actualisation de son modèle économique, c'est un grand reportage de Domitille Piron.
Désabusés, les Cubains n'attendent plus rien de leur gouvernement, encore moins de ce 8e congrès du PCC, le Parti communiste cubain. Ils subissent la crise, l'inflation, la dollarisation, et La Havane est devenue la capitale des files d'attente et des pénuries. Pour Diana Goulet, une vieille dame résignée, il faudra compter plus de 4 heures d'attente avant d'acheter des œufs.
En cherchant, on trouve toujours quelque chose à manger. Ici, on vient acheter des œufs, après on fait une autre queue pour acheter des tubercules. Et c'est comme ça qu'on vit ici, de file d'attente en file d'attente. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut pas se laisser mourir de faim.
Il faut faire la queue pour tout, même pour du pain ou du savon. Et dans les magasins où l'État vend en dollars, c'est la même histoire. Les files d'attente se mesurent en centaines de mètres, alors que ces magasins où l'on paye en monnaie forte sont censés être mieux achalandés. Cette situation exaspère le jeune Julio, dont le prénom a été modifié car il ne souhaite pas révéler son identité. Assis sur le trottoir en face d'un grand hôtel en construction, il est dans la file d'attente du plus grand supermarché du quartier résidentiel de Miramar. Depuis 7h du matin. Sa montre affiche 14h30 et il n'est même pas sûr d'entrer dans ce magasin avant la fermeture.
Ici, les prix sont en dollars, comme si on était aux États-Unis.
Et c'est cher, caro.
Ben, regarde, ce shampoing, par exemple, que j'ai acheté juste avant, ailleurs, il m'a coûté 6,7 dollars et ce n'est pas la monnaie dans laquelle je touche mon salaire.
Quel est votre travail?
Moi, je travaille dans un entrepôt de distribution alimentaire pour la restauration.
Vous travaillez donc pour l'État?
Oui, oui, tout à fait.
Et quel est votre salaire?
2000 pesos, pesos cubains. Et en ce moment, un dollar vaut 50 pesos cubains.
Alors combien vous avez réellement coûté ce shampoing?
Attends, je vais te le dire. Quelle folie. 6,7 multiplié par 50, 335 pesos un shampoing.
Ça fait donc environ 14 dollars le shampoing et c'est un sixième de son salaire. Du coup, c'est quasiment impossible de se permettre d'en acheter. Comment ça peut marcher, une économie comme ça?
Non, mais tout ça, c'est une arnaque. Ici, le pays se maintient grâce à l'argent envoyé par les familles de l'extérieur. Je n'ai pas d'autre explication. D'ailleurs, je ne serais même pas là dans cette file d'attente sinon. Parce qu'avec mon salaire, je ne pourrais acheter que 30 ou 40 dollars. Et dans ce magasin, je ne pourrais acheter qu'un fromage et c'est tout. Non, franchement, c'est n'importe quoi.
Privé de tourisme par la crise du coronavirus, Cuba est à court de devises pour financer ses importations. Le poids des sanctions américaines imposées par l'administration de Donald Trump se fait aussi durement ressentir et le gouvernement cherche des dollars par tous les moyens afin de sortir de la crise. Une des solutions se trouve au ministère du Commerce extérieur. L'objectif est d'exporter toujours plus et de substituer les importations. Une stratégie qui répond aux défis actuels pour sortir du marasme que l'on avoue désormais officiellement. Viviane Herrera est directrice du Commerce extérieur au ministère du même nom.
L'économie cubaine et dans notre cas le commerce extérieur ont été fortement touchés. Le PIB a diminué de 11% et je dirais que nous avons perdu un quart de nos revenus d'exportation. Ce qui se voit. Ces revenus garantissent l'accès à la santé, cela a été assuré, mais ensuite, ça permet de financer l'alimentation et l'approvisionnement. Et à ce niveau-là, on voit que nous sommes dans une situation très complexe. Il a fallu prendre des mesures qui ne sont pas très populaires, comme par exemple pour les magasins qui vendent en devises, mais cela a permis de récupérer des dollars pour les réinjecter dans notre économie. Donc voilà où on en est. Notre économie fait face à de nombreux écueils et obstacles.
L'économie cubaine se dollarise et la stratégie économique est au renforcement et à la diversification des exportations au détriment parfois de la consommation nationale. Au-delà de la médecine, la biotechnologie, le sucre et le rhum, Cuba cherche à se placer sur le marché mondial du miel, de l'ananas ou encore du charbon. Viviane Herrera.
Nous développons 391 produits qui ont un potentiel d'exportation et avec lesquels nous pouvons travailler. C'est le cas de nombreux produits agricoles, comme le piment habanero que nous souhaitons développer à l'export. Et nous proposons aussi à l'exportation 715 produits qui ont déjà leur place sur le marché mondial.
La réforme monétaire et du taux de change, fixé à 24 pesos pour un dollar, devrait bénéficier aux entreprises exportatrices, d'après les explications des membres du bureau politique du parti. Ceux-là même qui ont décidé de mettre en place en janvier dernier la grande réforme de l'économie cubaine appelée Tarea Ordenamiento, un nom qui suggère la remise en ordre de l'économie. Maintes fois repoussée, cette réforme avait été décidée lors du 6e congrès du parti en 2011 et arrive à un moment où Cuba traverse sa pire crise économique en 30 ans. Elle a pour conséquence, entre autres, d'aligner l'économie des entreprises d'État sur l'économie réelle. Le pragmatisme est donc désormais de rigueur, le ministre de l'économie, Alejandro Gil.
Il faut que les entreprises d'État réagissent de manière positive aux réformes. Il faut des solutions, de l'audace, plus d'efficacité, afin de diminuer le nombre d'entreprises qui tournent à perte et diminuer les subventions de l'État. Ce début d'année a été difficile. Nous avons dû faire face à la pandémie et à la réforme monétaire. Mais nous ratifions que nous ne renoncerons à aucun des objectifs que nous nous sommes fixés cette année. Et nous sommes en mesure d'atteindre un PIB de 6 à 7% comme le prévoit le plan d'économie.
Moteur de l'économie socialiste cubaine, les entreprises d'État sont moribondes, vieillissantes. Certaines sont même carrément à l'arrêt. Et pourtant, l'État continuait de les subventionner. Le gouvernement entend aujourd'hui changer la donne. La réforme monétaire mise en place en janvier et l'actualisation du modèle économique forcent désormais ces entreprises d'État à la rentabilité et l'efficacité. Une grande restructuration et modernisation est donc à l'œuvre dans ces entreprises et d'ici la fin de l'année, l'argent de l'État ne financera plus celles qui sont insolvables et improductives. Un défi de taille pour ces entreprises. 400 d'entre elles pourraient d'ailleurs disparaître, laissant sur le carreau plus de 300 000 travailleurs. Une dizaine d'ouvriers en bleu de travail chargent et déchargent des commandes dans un immense hangar. Nous sommes chez Gran Comercial, une entreprise étatique de distribution. Des tonnes de produits d'entretien, de papier toilette et de fournitures de bureaux sont entreposés ici. Contrairement à la majorité des entreprises d'État, Gran Comercial bénéficie pour l'instant de cette réforme. La comptabilité est plus lisible et le taux de change lui est favorable. Autre changement majeur de cette réforme pour les chefs des entreprises étatiques, ils sont désormais plus autonomes et responsables dans leur gestion. Leopoldo González Suárez, directeur de Gran Comercial.
Le pays a besoin de se développer et la réforme monétaire et économique donne aux forces productives du pays la possibilité de le faire parce qu'elle octroie aux dirigeants plus d'autonomie pour gérer leur entreprise d'État. Nous avons plus de capacité de développement. L'État dit qu'on peut développer des partenariats avec le secteur privé. Eh bien, il faut aller les chercher et les mettre en œuvre. L'État joue son rôle en nous donnant plus de marge de manœuvre. À présent, c'est à nous, les chefs d'entreprise, de se saisir de ces mesures et de les mettre en place. Donc c'est à nous d'être plus responsables, plus dévoués pour parvenir à de bons résultats.
Ces changements dans la gestion des entreprises d'État sont donc un défi pour les chefs d'entreprise. Leopoldo González Suárez en a conscience.
On nous donne plus d'autonomie, mais nous restons une entreprise d'État socialiste et nous avons une responsabilité face à l'État. Cette responsabilité, c'est de nous développer.
À croire que le modèle précédent avait tout simplement paralysé le développement. Les prochains mois diront si la pratique suit les discours. Et pour l'instant, un changement notable s'observe dans ces entreprises. C'est l'engouement au travail des employés car les salaires ont été augmentés. Gladys Bell Martinez-Lambert, chef de l'unité commerciale.
L'augmentation de salaire est bénéfique pour tous, pour ceux qui étaient déjà en poste et ceux qui sont entrés dans l'entreprise. Le salaire a été multiplié par 10. Ici, les travailleurs gagnent désormais environ 3 000, 3 200, 2 500 pesos.
Cette hausse des salaires pose un problème de financement à la majorité des entreprises d'État. Mais chez Grand Commercial, la mesure avait été anticipée et elle a pour conséquence d'attirer de nouveaux candidats sur des postes qui n'étaient pas pourvus. Cette hausse des salaires permet également de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. À Cuba, la mentalité des travailleurs du secteur étatique consistait jusqu'à présent à dire que si le travailleur est mal payé, il est en droit de mal faire son travail, voire même de se servir dans l'entreprise. Les vols dans ces entrepôts étaient donc courants et le gouvernement réformateur souhaite aujourd'hui y mettre un terme. La chef de l'unité commerciale, Gladys Bell Lambert, rechigne à évoquer le sujet, mais avoue que cela peut arriver.
Tous ceux qui manipulent des marchandises sont exposés à cela. Ici, dans cet entrepôt, nous avons plus de 3 millions d'articles dans notre inventaire. Nous avons beaucoup de ressources, mais nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires. Regarde le camarade militaire qui est là, est en train de réviser toutes les normes de sécurité de l'entrepôt, et il n'y a pas de problème.
Un meilleur contrôle pour éviter les vols, une incitation à mieux travailler avec la hausse des salaires et plus d'autonomie pour les chefs des entreprises d'État font partie des stratégies pour sauver le modèle économique socialiste cubain. Mais la planification centrale reste de mise à La Havane. Le professeur de sciences politiques à la Olinheim University, Arturo López Levy, y voit là un paradoxe. Selon lui, une économie planifiée est incompatible avec son ouverture au secteur privé et au marché mondial.
Il n'a jamais été question d'abandonner la planification économique. Mais le problème, c'est que le type de planification mis en place jusqu'à présent ne peut pas s'appliquer à une économie dans laquelle il y a un secteur privé que l'État ne contrôle pas et qui va s'agrandir. Cette planification ne fonctionnera pas non plus car les entreprises d'État vont être affectées et vont fonctionner avec ce nouveau secteur de l'économie.
La planification centrale du système socialiste cubain sera discutée dans les prochains jours lors du 8e congrès afin d'être flexibilisée et améliorée, mais pas abandonnée. À l'ordre du jour également, la décentralisation. Le PCC prévoit de décentraliser au niveau des provinces certaines décisions politiques comme économiques. C'est le cas notamment de la fixation des prix. Actuellement, c'est l'État cubain qui décide et fixe les prix, notamment des produits agricoles. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, allons faire un tour au marché. L'étal de José Ignacio Morejón est bien vide ce jour-là. Il n'a que quelques carottes un peu flétries, des choux et des tomates. Ce manque d'offres, le travailleur du secteur privé l'explique très simplement.
Le problème, c'est que le prix des tubercules, par exemple, a beaucoup augmenté. Du coup, on ne peut pas les vendre, parce qu'ici, nous avons une liste de prix imposée par le gouvernement. Le paysan ne baisse pas ses prix. J'imagine que c'est parce qu'il doit acheter des engrais, qu'il a des coûts et que l'État ne l'aide pas. Alors nous ne pouvons pas vendre ces produits, parce que nous sommes obligés de respecter la liste des prix. Et si on ne le fait pas, on s'expose à des amendes très salées, et ils peuvent carrément nous expulser du marché. La malanga, par exemple, vaut 8 pesos selon la liste des prix établie par l'État. Mais les paysans la vendent à 12 pesos, donc on ne peut pas la vendre. Moi, en tout cas, je ne la vends pas. Il y en a qui le font, mais moi, je vends au prix de l'État. Donc on ne mange pas de tubercules, c'est comme ça. La malanga à 8, le boniato à 3, la yuca, 4 pesos.
La yuca, 4 pesos.
Un paradoxe dans un pays où la population a faim et manque de tout. Cette décentralisation décidée par le parti pour la fixation des prix devrait être prochainement mise en place. Mais pour l'économiste Ricardo Torres, cela ne changera pas le problème.
Cuidado. Sí, es descentralización.
Attention, on parle de décentralisation, oui, parce qu'auparavant, cela se faisait au niveau du ministère des Finances pour tout le pays. Maintenant, ce sont les 15 provinces et les 169 municipalités qui le feront. Mais attention, tout cela reste très bureaucratique. Ce n'est pas le producteur qui va déterminer son prix, ce qui peut créer de fortes contradictions et qui peut avoir un effet négatif à long terme. Ça ne me semble pas être une bonne mesure et en plus, quelle est la capacité et l'expertise des provinces et des municipalités pour fixer les prix ? Je crois qu'ils n'en ont pas.
À ces critiques, l'économiste Ricardo Torres avoue tout de même que les choses changent à Cuba et que l'idéologie politique a désormais moins de poids dans les décisions économiques du pays.
Je crois que la vie économique d'un pays est bien plus riche que ce que l'on peut s'imaginer et planifier sur le papier dans un bureau. Et bien évidemment, il est devenu impossible d'ignorer les défis qui se présentent face à nous à Cuba. Donc je crois qu'il est désormais plus important de résoudre de façon adéquate les problèmes du pays.
Et parmi les changements les plus notables dans le modèle cubain, c'est l'ouverture au secteur privé. C'est une nouvelle philosophie qui s'instaure et dans les prochains mois, celui-ci devrait s'insérer dans la plupart des activités économiques de l'île. En effet, l'État ne dit plus ce qu'il est autorisé de faire en tant qu'entrepreneur privé, mais plutôt les activités qui restent sous son giron. Elles sont au nombre de 124 et concernent principalement la médecine, la défense, la banque ou l'industrie minière. Tous les autres secteurs peuvent donc être investis par les entrepreneurs, ce qui réjouit le jeune Carlos Javier Acosta.
J'ai une idée de projet autour du développement personnel. Il s'agirait à la fois de coaching physique, de santé et de relationnel. Et je crois que ce serait quelque chose de nouveau à Cuba. Ça n'existe pas encore.
De fait, ça n'existe pas parce qu'avant, ça n'était pas autorisé.
Exactement. Avec cette ouverture, un projet comme celui auquel je pense va pouvoir se développer. En plus, cette nouvelle régulation, qui va permettre de donner des opportunités à toutes les personnes qui ont des projets, a un grand avantage. C'est le fait de mettre en place un guichet unique. À ce guichet, on va pouvoir faire toutes les démarches administratives, alors qu'avant, on devait aller à différents bureaux aux impôts, à la planification physique, au ministère de la Santé, etc. Et ça, ça va nous économiser beaucoup de temps et de paperasse.
Le système pour développer une activité à son compte est effectivement simplifié et l'annonce a eu l'effet d'un grand réjouissement, même si certaines activités deviennent de fait interdites à l'exercice privé, comme le journalisme et l'édition de magazines et des professions telles qu'architecture. Architecte, comptable, chercheur et guide touristique, mais ces interdictions pourraient être modifiées dans les prochaines semaines. Marta Deus est surnommée à Cuba l'entrepreneuse en série. Elle a déjà créé Negolution, une revue sur le secteur privé justement, Mandao, un service de messagerie similaire à Uber Eats et un cabinet de comptabilité.
Pour moi, ça me donne plus de possibilités, même s'il y a encore des doutes autour des activités qui seront désormais interdites. Mais je ne veux pas me focaliser sur ce qui est interdit. Je préfère penser aux options qui sont devant moi. S'il est interdit de faire un magazine, eh bien, je ferai une newsletter. S'il est interdit de faire de la comptabilité, je ferai de la tenue de livres de comptabilité. Et si on ne peut plus faire d'application, eh bien, nous deviendrons une entreprise de logistique. Je ne vais pas me focaliser sur les aspects négatifs, parce qu'être entrepreneur ici, c'est déjà suffisamment éreintant pour que je ne me mette pas à déprimer.
La jeune entrepreneuse estime que les Cubains sont prêts à se lancer dans le secteur privé et elle parie sur le développement de très nombreuses activités, mais considère que Cuba manque d'une culture de l'entrepreneuriat. Les formations pour la création d'entreprises se comptent sur les doigts d'une main et les Cubains manquent surtout de capital de départ pour se lancer. Cette ouverture du secteur privé pourrait bien être une piste de solution pour sortir de la crise. Et cela ne signifie pas pour autant que le capitalisme va envahir Cuba, selon Marta Deus.
Cuba ouvre son économie et ouvre des opportunités pour les Cubains. Mais selon moi, ça n'a rien de capitaliste. C'est ce qui s'est passé en Chine et au Vietnam. Bien sûr, on peut y voir certains aspects du capitalisme, mais je crois que c'est un peu exagéré de parler en ces termes. Et en plus de cela, ça ne nous aide pas du tout, parce que ce genre de commentaires sont contre-productifs, parce que quand le gouvernement entend ça, il se ferme encore plus, parce qu'il lutte contre ces idées-là.
L'actualisation du modèle économique ouvre donc de nouvelles opportunités et libertés économiques pour les Cubains, en tout cas sur le papier. Ce changement dans le système de propriété permet également aux particuliers d'investir dans l'économie nationale et notamment aux Cubains de l'étranger. La diaspora de plus de 2 millions de personnes peut aujourd'hui investir sur l'île à hauteur $1 million. Un véritable changement de philosophie, même si cette ouverture ne présente encore aucune garantie. Pour l'émergent secteur privé, ces investissements venus de l'extérieur pourraient donc être bénéfiques et venir faire croître les rangs des travailleurs indépendants. Julian Picans est l'un de ces investisseurs et il a même choisi de se rapatrier à Cuba. Après plusieurs années passées en Argentine, il a décidé de revenir à La Havane pour y créer un restaurant. Pour l'instant, dit-il, il n'est pas rentable. Le contexte ne lui est pas favorable, mais il a de l'espoir pour l'avenir. Ce grand et fort trentenaire voit les directives de l'économie cubaine changer, mais selon lui, il faut aller encore plus loin.
Je ne crois pas que toutes ces annonces changent grand-chose dans les conditions actuelles. Le secteur privé à Cuba, ce dont nous avons besoin, c'est d'accéder à des crédits, que l'État baisse les impôts sur les revenus d'activité et une meilleure relation aussi avec les inspecteurs. Pour moi, il y a véritablement un problème de communication et de bureaucratisation. Mais franchement, je ne crois pas qu'une seule réforme change la dynamique de tout ce qui se passe ici.
Cuba face à l'actualisation de son modèle économique, un grand reportage de Domitille Piron, réalisation Pierre Chaffangeon.